qu'on va voir aujourd'hui, c'est spirituel. C'est quelque chose qui ne se voit pas de nos yeux. C'est par la foi qu'on peut voir les choses invisibles. C'est pas par, nécessairement par les yeux. Qui de vous avez-vous vu Dieu en personne? Personne. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais je le sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de l'avoir vu pour savoir qu'il est là. La logique de mon cerveau le comprend. Ma foi me permet de sonder ce qu'il a dit et de pouvoir saisir ces vérités-là. C'est par la foi qu'on s'approche de Dieu puis qu'on croit que Dieu existe. On croit au surnaturel par notre foi. C'est par notre foi qu'on peut saisir ce surnaturel-là et l'expérimenter. Le sujet qu'on voit aujourd'hui, on va parler des anges de Dieu qui sont un allié pour les chrétiens. C'est par la foi qu'on peut s'apercevoir qu'ils sont là. C'est par la foi qu'on va voir ces anges-là agir dans notre vie. Parce qu'ils agissent, ils sont placés là par Dieu, ces esprits-là, au service de Dieu pour accomplir une mission bien spécifique pour chacun des croyants. Dans Daniel 7, le verset 9, pas moi, un autre Daniel, le Daniel original, moi je suis comme une pâle copie. Dieu, il y a une très grande armée dans le monde invisible. Combien est-ce qu'il y a, est-ce que parmi vous, vous savez le nombre d'anges qui pourraient se trouver devant Dieu? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français, des myriades? C'est un chiffre qu'on n'utilise pas, mais qu'on l'a dans la Bible comme traduction. Dans la version Louis II que j'ai présentement, il donne le chiffre, puis tu peux aller le calculer. Il dit, j'ai regardé pendant qu'on plaçait des trônes. Ça, c'est le prophète Daniel qui parle dans Daniel 7, le verset 9. Puis l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Ça, c'est une vision qu'il y a. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Puis là, regardez bien ce que je veux peser. 1 000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. C'est des milliards. Il y a devant Dieu des milliards d'anges qui sont là. Ils ne sont pas dénombrés. Puis ça ne nous dit pas que ces anges-là peuvent se multiplier. Mais je suis sûr et certain que si Dieu en a besoin d'autant, une deuxième batch, il serait capable d'en créer comme qu'il veut. Parce que les anges, ils ont été créés par Dieu, ces êtres célestes-là. Puis comme j'ai déjà prêché, il y en a différents types d'anges. Il y a des chefs pour ces anges-là, ça s'appelle des archanges. Il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Il y en a toutes sortes de catégories d'êtres vivants, comme se regarder dans l'Apocalypse, il y a les 24 vieillards, puis les 4 êtres vivants qui sont là. Il y a pas, ça ne nous a pas donné un nom pour chaque type ou chaque espèce de créature invisible que Dieu a créée. Ils sont là. Puis ils servent Dieu jour et nuit. Ils sont en travail jour et nuit. Ils sont jour et nuit en train de faire la volonté de Dieu. Dieu se sert de ces anges-là pour gérer l'univers entier. On voit dans l'Apocalypse, dans certains passages, qu'il dit l'ange des vents, l'ange du fleuve. Parce qu'il y a des anges pour toutes sortes d'affaires qui est nécessaire que ça soit touché de la part de Dieu. Dieu a mis des anges en autorité dans tout le système terrestre et dans tout l'univers. Puis surtout dans le monde invisible, dans ce qui se passe devant le trône de Dieu. On peut pas comprendre tout de suite, là. Essayez pas de tout comprendre, le rôle de chacun puis tout ce qu'ils font. C'est par la foi qu'on accepte cette idée-là. Parce que c'est une révélation de Dieu pour nous enseigner que c'est là. Ça ne m'est jamais apparu, mais il y a des gens que ça leur a apparu. comme l'apôtre, le prophète Daniel, dans ce passage-là. Il y a eu une vision, Dieu permis qu'il voit cela. On va voir dans la suite du message, il y aura d'autres occasions, qu'il y a eu d'autres personnes qui ont vu les choses invisibles, puis c'était un puissant encouragement pour ceux qui saisissent cette idée-là, qu'ils sont là, ces êtres-là, pour combattre avec nous. Tous ces êtres-là, ils sont puissants. Un seul de ces anges-là peut détruire une armée au complet sur la terre. C'est arrivé dans l'Ancien Testament, je ne donnerai pas le passage, mais il y a une armée entière qui s'était venue pour combattre l'armée d'Israël. Un seul, l'ange de l'Éternel, qui est arrivé là, puis il a massacré toute l'armée au complet. Le lendemain, tout le monde est à mort. Un seul peut renverser l'armée, une armée entière d'un pays d'une seule claque comme ça. Triche, tout le monde est mort. Puis nous autres, on ne peut rien contre ces anges-là. Tous ces êtres-là, ils sont puissants et obéissent aux ordres de Dieu. Ça, on voit ça dans le psaume 103, le verset 20, qui nous dit « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges de Dieu, les serviteurs de Dieu, obéissent à la parole de Dieu. Dieu prononce un ordre dans les cieux, puis les anges s'empressent à l'exécuter. Là, je ne parle pas des anges déchus, de ceux qui ont abandonné leur rôle auprès de Dieu, puis qui se sont révoltés, puis se sont rebellés, puis qui se sont détournés, puis là, il a essayé de se partir un autre royaume à part, puis essayer de se monter un royaume plus haut que celle de Dieu. Je parle pas de ces anges-là, je parle de ceux qui sont dans la présence de Dieu, de ceux qui servent Dieu, puis qui obéissent à Dieu, qui sont fidèles à Dieu. C'est des anges puissants, puis qui obéissent aux ordres de Dieu. En même temps que nous vivons des événements sur la terre, puis que le plan de Dieu s'accomplit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été prophétisées dans l'Ancien Testament, puis qui se sont accomplies, comme la venue de Jésus-Christ, et ainsi de suite, et tout ce que Jésus a fait, en même temps que la vie terrestre, les choses s'accomplissent, mais dans le ciel, il y a des guerres, il y a des combats qui se passent entre les anges de Dieu et les puissances des ténèbres, qui essayent de s'opposer au plan de Dieu. Les anges de Dieu combattent contre le diable, contre les démons, puis ça, c'est des guerres terribles. On ne serait pas capable de vivre ça, nous autres. On n'est pas été créés pour ça. On a un autre combat à faire, mais ça, le combat des anges, Dieu s'arrange avec eux autres, puis ils sont équipés pour l'accomplir. Il dit, les anges de Dieu combattent contre le diable puis les démons, puis les repoussent selon le terrain gagné par Jésus-Christ. Puis les enfants de Dieu qui marchent par la foi puis qui utilisent les armes de Dieu. Chaque fois que Jésus-Christ a prononcé des paroles quand il était sur la terre, il y a des choses qui se passaient dans les lieux invisibles. Quand les disciples sont partis puis qu'ils marchaient par la foi, les démons sortaient, puis il dit Jésus, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça, les démons prennent des débarques quand hein, les enfants de Dieu prennent leur rôle au sérieux, puis qu'ils marchent par la foi, puis qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça ébranle les cieux, puis les anges combattent, puis gorgent dehors les esprits méchants qui agissent pour faire du trouble. La guerre se passe sur la terre, entre ce que Jésus a fait, avec ce que Jésus a fait et les disciples ont fait, puis nous, ce qu'on fait, nous faisons. Mais pendant qu'on fait quelque chose, il se passe de quoi aussi dans les lieux célestes? Une guerre spirituelle. Je vais vous montrer quelques versets pour vous prouver ce que je viens de vous dire là. Jésus était sur la terre, dans Jean 12, 31. Ça nous dit, « Maintenant, il y a un jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jésus a prononcé une parole. Il dit là, c'est arrivé que le diable, le prince de ce monde, c'est le prince des puissances des ténèbres, de l'esprit qui agit d'un fils de rébellion, c'est le diable, Satan lui-même. Ça nous dit que le prince de ce monde sera jeté dehors. Là, on voit dans Colossiens 2,15 que Christ, il a triomphé quand il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Il a triomphé sur toute l'armée de l'ennemi par sa mort sur la croix et quand il est ressuscité. Colossiens 2,15, ça dit, ayant dépouillé les principautés, les autorités qu'il a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles en la croix. Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il venait de prendre les péchés de l'humanité, les absoudre. Puis l'arme dans laquelle que les démons, Satan et les démons utilisent pour garder le monde captif, c'est le péché. Qu'est-ce qui arrive quand ils n'ont plus de péché à prendre? Mais ils sont dépouillés de leurs armes qu'ils avaient, dans lesquelles ils se confiaient pour garder captifs. À cause que la dette du péché est réglée, tout le monde qui le veut sur la terre peut être libre des attaques du diable. On peut rejeter le diable, on peut le repousser à cause que la dette de nos péchés a été effacée. À cause de l'œuvre de Jésus, le diable a été dépouillé. Toute sa puissance, la puissance de l'ennemi a été dépouillée, que ça nous dit dans Colossiens 2,15. Qu'est-ce que ça veut dire, dépouillé? Il arracha la peau. Il a dépouillé de ce qui le recouvrait. Il y avait une gloire dans ça, dans le péché, puis Jésus il a pardonné les péchés. Mais le fait que Jésus meurt sur la croix et qu'il ressuscite, ça nous dit qu'il a vaincu les puissances des ténèbres. Ce qui s'est passé en même temps dans le monde invisible, en même temps que Jésus mourait sur la croix, ça a provoqué une guerre dans les cieux. Apocalypse 12,7. C'est là qu'on voit ce qui se passait dans le monde invisible, en même temps que Jésus est en train de mourir sur la croix. Jésus dit, le prince de ce monde va être jeté dehors. Là, Jésus meurt sur la croix. Qu'est-ce qui se passait dans le ciel en même temps? Il y a eu une guerre dans le ciel. Michel, c'est Michael, c'est un archange, c'est un chef des anges. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, puis leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Pendant que Jésus est en train de payer la dette des péchés, sa victoire sur la croix pour dépouiller les puissances des ténèbres, en même temps, il y a eu une guerre dans le ciel que les anges de Dieu, Michel et ses anges, ont combattu contre la puissance des ténèbres, puis la guerre était très violente, que tous les démons ont perdu, puis ont été précipités en dehors du ciel. Cela a accompli ce que Jésus avait dit, que le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus l'a annoncé, il est mort sur la croix, puis en même temps, ça a créé une guerre dans le ciel, que le diable a été jeté dehors. Voyez-vous que pendant qu'il se passe des choses sur la terre, des choses spirituelles, des choses selon le plan de Dieu, puis que les armes de Dieu puis les moyens de Dieu sont utilisés, mais ça crée dans le ciel, dans le monde invisible, une guerre, puis ça fait précipiter les puissances des ténèbres qui ont sorti du ciel à cause de la victoire de Jésus. Mais dans d'autres occasions, ça peut être sur nos vies. Quand que le diable vient « arrière de moi, Satan », il s'en va. Il dit « il va fuir, résiste-lui avec une foi ferme, puis il fuira ». Mais la même chose aussi quand tu pries pour une personne qui n'est pas sauvée puis qui est liée par un esprit démoniaque, puis tu chasses l'esprit qui est dans une personne, tu prends l'autorité dans le nom de Jésus puis tu chasses, bien, le Satan, il prend une débarque puis il s'en va. C'est les puissances qui sont en action dans le monde invisible, les puissances de Dieu, les anges de Dieu qui se battent contre les anges démoniaques, puis ils prennent la place, puis ils tassent les esprits méchants. Pendant que les chrétiens travaillent sur la terre, Dieu travaille dans les cieux. Il envoie ses anges, puis ils font des choses comme que Dieu le veut selon son plan. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il savait quelles étaient les armées invisibles mises à sa disposition. Il savait, puis il était pleinement conscient qu'il y avait une multitude d'anges qui étaient là pour être à son service. Hein?
Jésus l'a dit, en effet, puis il a dit, parce qu'il l'accusait, puis il disait, de quoi on l'accuse? Puis là, il a dit, il avait des services, des anges à ton service. Si ça a été donné à mon père de m'empêcher d'aller à la croix, il serait.
Ouais, dans ce passage-là, avec Pilate, ça dit. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, tout ça? Il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir que s'il ne t'avait été donné d'en haut. Fait que là, Jésus savait que l'autorité est donnée par Dieu le Père. Maintenant, dans le contexte que je suis en train de parler, c'est que Jésus savait quelles étaient les armées invisibles qui étaient mises à sa disposition. Dans Matthieu 26, 53, quand ils sont venus pour arrêter Jésus, Jésus a répondu, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Jésus avait juste à dire, « Père, envoie tes anges. » Il en a envoyé 12 légions. Une légion, ça serait environ 2000, 12. Ça fait 12 000 anges qui seraient venus. Ça, c'est juste une légion. Comme qu'on a vu tantôt, il y en a des milliards. Il en envoie une légion, puis il aurait pu le délivrer. Mais Jésus n'est pas venu pour sortir de ce qu'il devait vivre. Il est venu pour accomplir ce qui avait été promis. Il a accepté de mourir sur la croix, puis de remporter la victoire par la croix. Mais Jésus savait qu'il y avait à sa disposition une multitude d'anges qui étaient là, puis qui auraient pu le secourir. Puis c'était promis dans l'Ancien Testament que Jésus aura pu être délivré, il dit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet, puis te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il savait les versets, le Seigneur, mais il n'a pas accepté d'utiliser les délivrances, il a accepté plutôt le chemin qu'il devait passer, puis il a accepté d'aller mourir à la croix pour payer la dette de nos péchés. Jésus avait averti ses disciples qu'il verrait des anges pour accompagner le ministère de Jésus. Dans Jean 1, 51, ça dit, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges montaient et descendaient, puis les disciples étaient témoins de voir les anges aller sur Jésus, puis aller parler à Jésus, puis de remonter. Puis c'était dans le but de fortifier Jésus dans son ministère. On va le voir justement dans Luc 22, 42, qui nous dit exactement ce que je vous dis là. Jésus est en train de prier, il était sur le bord d'aller mourir sur la croix, puis il est en proie au tourment, il est en sueur, puis il suait du sang, puis il est en angoisse, puis c'était dur, puis là il priait à son Père d'éloigner, mais en fin de compte, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne, puis il savait qu'il fallait qu'il passe par là. Puis là, ça nous dit, dans justement ce passage-là, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Puis là, le verset 43, ça nous dit, « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Dieu a envoyé un ange qui est apparu à côté de Jésus pour le rendre fort, pour être capable de passer à travers, pour le fortifier. Dieu, il sait comment intervenir pour encourager un de ses serviteurs qui est dans un combat difficile puis qui a besoin d'encouragement. Dieu envoie un de ses envoyés, un de ses anges, pour le fortifier, pour qu'il soit capable de passer à travers parce que c'était pas facile. Il faut pas penser que il faisait ça avec joie de mourir, d'aller payer la dette des péchés. C'était pas un plaisir. C'était quelque chose de difficile. Comme tous les chrétiens qui sont morts martyrs. Des fois, j'ai déjà entendu ça. Oh, quand t'es chrétien, tu peux mourir martyr, puis tu vas être dans la joie. Non, non. Ça, là, c'est dans des contes de fées, ça, là. Il y a pas personne qui a de la joie de mourir. Ça nous dit comme une brebis muette devant celui qui le tond, ou comme un bœuf qui s'en va à l'abattoir. Tu t'en vas là, puis ton feeling intérieur, la seule manière que tu peux le passer, c'est si tu restes en connexion avec le Seigneur, puis que la force du Seigneur t'alimente. Sinon, ça peut faire mal quand tu plantes les clous dans la main, ça y a fait mal, puis il a pas dit que ça y a pas fait mal. Il a souffert, ça dit, la Bible a dit. Il a souffert. La croix. Puis en plus de la honte, c'est l'ignominie. Il a souffert, puis il en a eu honte de se faire humilier, de se faire déshabiller tout nu devant tout le monde, puis de se faire ridiculiser, lui qui étant le créateur de toute chose. Ça a coûté de ses souffrances, puis de son humiliation pour arriver à cela, puis il l'a accepté, mais Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Vas-y, t'es capable, je suis avec toi. Là, quand oui, ça, il a fallu que ça soit quelque chose de semblable. Là. On laissait pas les paroles que l'ange y a dit. Mais il y en a un autre passage dans l'Ancien Testament que quand le prophète il a eu une vision, il était tombé à terre, puis il était sans force. Puis ça dit que l'ange est arrivé, puis il disait fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. Puis ça dit dans le texte, à mesure que l'ange parlait, puis en disant de se fortifier, il dit les forces me revinrent. Les paroles de l'ange fortifiaient ce prophète-là. J'ai pas sorti le passage, mais c'est pour dire que les anges ont dans leurs paroles des paroles qui peuvent fortifier. Comme David a dit, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, mais ça veut dire que Dieu pouvait mettre un ange à côté puis le fortifier par des paroles d'encouragement qui peuvent nous souffler dans nos oreilles, pour nous encourager à aller de l'avant. Parce que des fois, on se décourage en tant que chrétien. Ces anges puissants-là, qui étaient là pendant le ministère de Jésus, ils vont être là aussi au retour de Jésus-Christ. Jésus, quand il va revenir, 2 Thessaloniciens 1, 7, ça nous dit qu'il va être accompagné de ses anges, les anges de sa puissance, qui vont être là avec lui. Ça nous dit, et de vous donner, à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, puis il vient pour le jugement sur la terre, pour punir ceux qui connaissent pas Dieu puis ceux qui obéissent pas à l'Évangile. Ça, c'est à l'avènement, à son retour. Jésus est accompagné des anges sur la terre, mais quand il va venir du ciel sur un nuage, puis à la vue de tout le monde, comme un éclair qui part de l'Orient jusque dans l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il va éclairer le ciel de sa gloire. Il dit, il est au milieu d'une flamme de feu. Puis, il va éclairer le ciel par la gloire de sa présence parce que il est lui-même glorieux. Puis, les anges de sa puissance qui sont là, les millions d'anges qui vont l'accompagner et tous ceux qui sont ressuscités, parce que la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront, puis nous, on va être enlevés avec eux sur des nuées. On va aller les retrouver sur un nuage. Fait qu'il arrive puissant avec ses millions d'anges, puis il éclaire le ciel comme un éclair, puis il s'en vient pour ramasser ses élus, puis ayant avec lui aussi tous les ressuscités. Jésus est accompagné de ses anges, les anges de sa puissance, des anges puissants. Ça va être glorieux, ça va être un spectacle extraordinaire. Du jamais vu. C'est une primeur que je vous annonce, puis c'est bientôt que ça va arriver. Où ce que Jésus va revenir, puis il va éclairer le ciel de sa gloire avec ses anges puissants en sonnant de trompette, puis il va rassembler les élus des 80. Ça nous dit justement que Jésus enverra ses anges rassembler ses élus. Dans Matthieu 24, 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, puis rassembleront ses élus des 80, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Fait que non seulement que les anges accompagnent Jésus à son retour, mais en plus de ça, les anges vont aller ramasser les élus, peu importe où ils sont sur la terre. Ils sont dans l'attente, Seigneur reviens, puis là il va arriver, puis un ange va venir nous chercher, puis on va se retrouver avec lui dans le ciel. Ça va être extraordinaire. Puis on n'a pas besoin de s'inquiéter, je suis à la bonne place. Il dit là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Peu importe où ce que l'élu est, Dieu va envoyer un ange aller te chercher. Si tu lui appartiens, dis deux dans un champ, l'un va être pris, l'autre va être laissé. Deux dans un lit, un va être pris, l'autre va être laissé. Ça va être aussi catégorique que ça. T'es prêt, tu pars. L'ange connaît les celles qui appartiennent à Dieu, puis l'ange va ramasser celui qui appartient à Dieu, puis l'autre va rester là. L'importance de se préparer, puis d'être debout lorsque le Fils de l'homme viendra, c'est ça qui est important. Ces anges-là qui sont extrêmement puissants, puis c'est Jésus qui le dit de sa bouche, qu'ils sont puissants, puis les apôtres avec, c'est des êtres puissants qui pourraient se faire passer pour des dieux. S'il y aurait un ange, là, il y aurait une grosse fête ici à Saint-Rémy, là, puis un ange apparaîtrait, le monde tomberait toute la face à terre en tremblant, avec effroi. C'est même les disciples ont vécu ça. Ils ont vu des anges, puis ils étaient tout énervés. Puis là, ce qui pourrait être une conséquence des gens qui connaissent pas Dieu, c'est de vouloir rendre un culte à cet ange-là. Parce qu'ils diraient, un Dieu nous a apparu. Puis là, ils commenceraient à vouloir rendre un culte. Ça pourrait se faire passer pour des dieux tellement que c'est des personnages extraordinaires. En beauté, en éclat. Tu vois, l'ange qui est apparu à côté du tombeau, il était comme l'éclair. Ça dit que son habillement était comme un éclair. Il éclairait. Tu vois, quand tu vois quelqu'un en train de faire de la soudure, là, t'es obligé de te mettre un masque avec des lunettes pour pouvoir voir, sinon t'as un flash de soudure. Mais quand tu regardes un ange, tu pourrais être comme ça, un ange qui brille de sa gloire. Tellement que c'est puissant l'énergie qui sort de là, c'est Dieu qui a créé ces êtres extraordinaires-là. Mais il y a des gens qui pourraient rendre un culte à cela, mais ça nous dit dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas leur adresser des prières ni leur rendre un culte. Dans Lévitique 19:31, vous ne tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Parce que les anges, c'est les esprits. Il y en a, les esprits, les anges de Dieu, ne répondront pas aux prières. Ils accepteront pas d'être priés ou qu'un culte leur soit rendu. Comme ça nous est dit dans Apocalypse 19:10, quand il a vu l'ange y parler puis tout le kit, l'apôtre Jean, il dit, je tombais à ses pieds comme pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu. Mais quand t'as envoyé un, t'es porté à tomber sur ta face et à adorer. Même un apôtre, il a dit, hey, c'est donc bien extraordinaire. Puis là, puis c'est arrivé à plusieurs passages. Puis là, il a dit, garde-toi de faire ça, fais jamais ça de te mettre à genoux devant nous autres. On est tes compagnons de service. On est là pour t'aider dans ta vie, dans ta marche chrétienne. On est là pour travailler avec toi. On n'est pas, on mérite pas la gloire. Elle dit, adore Dieu à la place. Faut se garder de même si on aurait une vision, puis qu'on aurait une révélation, puis un ange nous apparaît, puis il commence à nous parler. C'est pas Dieu, là, c'est un ange qui nous parle. À moins qu'il se dise, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Là, comme Jean, il a vu une vision de Jésus-Christ. Mais là, tu vas te dire, c'est Jésus. Mais quand c'est un ange, ça nous dit dans l'Apocalypse que les révélations ont été données par l'envoi d'un ange. C'est un ange qui est envoyé à Jean pour avoir les révélations. Mais dans ces révélations, il a vu Jésus, il a vu le ciel, il a vu les anges, il a vu tout ce qui se passait dans le monde invisible. Que font les anges pour les chrétiens? C'est là qu'on rentre dans l'intéressant. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans ma vie à moi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça n'est un point. Parce que les anges... Le ministère des anges, c'est d'accompagner les enfants de Dieu. La minute qu'une personne se convertit, qu'elle donne sa vie au Seigneur, le Seigneur, il pardonne ses péchés, il la lave par son sang, là, la personne dit, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Là, l'Esprit de Dieu vient dans la personne vient de naître de nouveau, puis là, le Seigneur arrache cette personne-là du royaume des ténèbres, puis il l'emmène dans son royaume à lui, dans le royaume de la lumière. On est rentré dans le royaume de Dieu. Là, on peut profiter de tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Puis on vient d'avoir des anges qui nous sont attitrés, qui nous sont mis là pour nous faire du ministère en même temps que nous autres. sont là pour nous accompagner. Ils voient tout ce qu'on dit, ils voient tout ce qu'on fait, sont toujours là. Ça, je dis ça juste pour dire, wow, pour faire attention, des fois on fait des affaires que Dieu aime pas, puis on pense qu'on est tout seul. Dieu, il a mis des anges à côté de nous autres, il voit tout. Ça veut dire, Seigneur, pardonne-nous. Il y a beaucoup de témoins. Il dit, ce que tu auras dit dans les ténèbres va être prêché sur les toits. Faisons attention à ce qu'on fait. Prenons conscience de toute façon que Dieu lui voit tout aussi. Mais c'est gênant. Il y a d'autres que Dieu. C'est... Vrai ou faux que ça a un effet sur notre comportement quand on se rend compte qu'ils sont là? Je suis sûr que là, dans l'immédiat, vous allez être un bout sans faire attention. Les ministères des anges, c'est d'accompagner les enfants de Dieu. Hébreux 1,14, ça nous dit cela. Ce sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Qui est ceux qui doivent hériter du salut? C'est nous! Les rachetés, ceux qui ont mis leur confiance, leur foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et qui persévèrent. On est engagé à suivre Jésus et on persévère jusqu'à la fin. Nous sommes les rachetés, nous sommes les ceux qui doivent hériter. Fait qu'à cause qu'on est de ceux qui doivent hériter, Dieu a mis ses anges à côté de nous pour faire un service, pour faire du ministère, pour être là, pour nous accompagner. Ils sont là. Qu'on les voit pas, ils sont là. Puis on n'a pas le droit de douter de cela parce que c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous dit qu'ils sont là. Fait qu'il faut saisir par la foi ces révélations-là. Puis autant que Jésus dit, je vous laisse pas seul, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus dit ça. Mais il y a aussi les anges qu'il a mis là, aussi à côté de nous, qui sont là. Tout le long de notre ministère, de notre temps terrestre. Ils nous accompagnent et travaillent avec nous dans l'œuvre de Dieu. Dans Apocalypse 22,9, ils sont nos compagnons de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Êtes-vous de ceux qui gardent les paroles de Dieu, la Bible? Êtes-vous de ceux qui aiment la Bible puis qui veulent la mettre en pratique, qui voulez la garder dans votre cœur, que vous trouvez ça extraordinaire? C'est la révélation de Dieu. Si vous êtes de ceux qui aiment et qui gardent la parole de Dieu, Dieu y a mis des anges à côté de toi, des compagnons de service pour t'accompagner dans ton ministère terrestre. C'est ce que ça dit dans ce verset. Ils sont nos compagnons de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Si tu marches dans la foi, sache que Dieu a mis des anges à côté de toi. Ils veillent aussi à notre protection. C'est ce que tu avais mentionné tantôt dans le psaume 34,8, ça nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » L'ange de l'Éternel, il campe. Savez-vous ce que ça veut dire, campe? Il a fait un campement. Il s'est installé. Il décide de demeurer là. Quand tu vis dans ton campement, tu demeures dans ton campement. Fait qu'il dit, l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui craignent, puis les arrache au danger. Ça veut dire qu'il y a des anges de Dieu qui sont là, qui campent à côté de toi, puis qui demeurent là où ce que tu es. Puis ils t'accompagnent, puis ils t'arrachent au danger. Tu vis des combats, tu vis des difficultés, il y a de quoi de grave qui se produit. Dieu envoie ses anges. Tout ce que Dieu veut pas que t'arrive, il va te mettre quelque chose pour t'en protéger. Parce que Dieu permet qu'il nous arrive des choses qu'il n'enverra pas son ange. Quand les premiers apôtres sont morts martyrisés, là, il a fallu qu'ils meurent martyrisés. Puis les anges de Dieu étaient là aussi, sauf que c'était pas la mission des anges. Dieu a pas donné d'ordre à l'ange, arrache-le de la croix, ou délivre-le. Dans d'autres occasions, c'est arrivé que Pierre est en prison. Dieu a envoyé son ange, puis les portes se sont ouvertes, les chaînes sont rompues, puis il est sorti. Quand Dieu veut pas que t'arrive une affaire, il envoie ses anges, puis il te sort de là. Ça m'est déjà arrivé, moi j'ai pas vu d'ange, mais j'ai vu la main de Dieu. J'étais en train de conduire mon char, puis c'était comme une glace. Là, mon char, il est parti de travers. Tchouk! J'ai lâché un cri, « Seigneur! » Oups, il est revenu direct. Là, ça continue direct. Cette fois-là, oui. Dieu, il a exaucé une prière, il m'a ramené mon char qui était hors de contrôle. Il n'a pas fait ça à tous les fois parce que ça m'est déjà arrivé de pogner un accident. Qui était dans le plan de Dieu. Il faut croire que Dieu peut permettre qu'il nous arrive des choses, puis ça fait partie de sa gloire. Puis il peut permettre aussi d'envoyer un ange pour nous secourir d'une autre chose, puis ça fait partie de sa gloire aussi. Faut apprendre à se soumettre à ce qui est sa volonté, à ce que je peux changer puis ce que je peux pas changer, à ce que je dois accepter. Comme un exemple, Jésus, il est mort sur la croix. Il aurait pu invoquer les anges, mais il l'aura pas fait parce qu'il fallait qu'il passe par là. Les apôtres sont morts aussi. Pierre, il était sorti de la prison par un ange. Mais Jacques, qui était un des 12 apôtres, lui, il est mort assassiné par les gens de cette époque-là. Dieu peut permettre une délivrance à un, puis dans d'autres moments, c'est sa volonté que ça se passe, quelqu'un meurt. Mais sache que Dieu met des anges autour de nous, puis il exerce un ministère, et il nous protège. Parce que je suis sûr que s'il n'y aurait pas mis d'anges autour de nous autres depuis qu'on est chrétiens, on ne serait plus vivants. Parce que les anges démoniaques, ça fait longtemps qu'ils nous arrasent, détruits. Puis si on est encore là, c'est parce que Dieu a encore de quoi à faire avec nous, puis on est encore là pour faire ce qu'on a à faire, ce que Dieu a préparé d'avance, puis il n'y a personne qui peut nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. On marche par la foi, on fait ce qu'on a à faire, puis tant que Dieu va nous permettre d'être encore ici, il n'y a rien qui peut vous empêcher de faire ce que Dieu vous demande. Si un ange, il dit quand même, l'ennemi se lèverait, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.
La mort de Jean, ça a provoqué répartition de l'Évangile.
Oui.
Les disciples se sont dispersés,
mais
ils ont répandu l'Évangile. Ça a provoqué ça.
Oui. Mais c'est pour dire que Dieu a permis qu'un de ses apôtres soit assassiné.
Il y avait des raisons.
Il y a des raisons qu'on ne sait pas, puis il y a peut-être, à nos yeux, aucune raison logique qu'on comprend. Mais Dieu sert de toutes ces affaires-là, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. C'est ça, mais ça on va le voir ensuite. Un autre verset qui parle de la protection des anges, j'en ai mentionné un peu tantôt dans le psaume 91.1. Il dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut » repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fait que si ta sécurité est de rester à l'abri du Très-Haut, puis que Dieu veille sur moi, puis Dieu me protège, puis j'ai pas à m'inquiéter, Dieu est là, puis Dieu me protège. Si tu demeures dans cette idée-là, le verset 11 de ce verset-là nous dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, puis ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ça s'adressa pas juste à Jésus. Ça s'adresse à tous les disciples, ce verset-là, que Dieu a promis de mettre ses anges. Si tu dis que tu veux demeurer à l'abri du Très-Haut puis à l'ombre du Tout-Puissant, tu fais ta confiance que Dieu est avec toi puis Dieu te protège. Mais à cause que tu penses comme ça, à cause de ta foi, Dieu met des anges puis il te protège. Puis ils vont te porter. Ben oui, le diable s'est servi de ça pour tenter Jésus, pour dire « Ouais, mais... » Jette-toi en bas, car il est écrit, il va donner des ordres à ses anges. Là, Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. On n'a pas à faire exprès pour voir si Dieu va agir ou s'il n'agira pas. Ah oui, je vais me jeter en bas de la montagne, il a promis qu'il va envoyer un ange pour me protéger. Ça serait de tenter Dieu pour voir si Dieu va vraiment le faire. Ça, c'est un des... Hein? Quel genre de ministère peuvent-ils exercer en faveur, en notre faveur? Mais il y a dans la Bible des centaines d'exemples d'interventions d'anges. En voici quelques promesses puis enseignements de la parole là-dessus. Dans Luc 1, 11, il y a un ange qui est parti puis qui a averti Zacharie puis il apporte une bonne nouvelle que sa femme aura un enfant. C'est un ange qui est envoyé de Dieu. Dans Luc 1, 26, il a envoyé à Marie pour lui annoncer qu'elle porterait le Messie, le Sauveur du monde. Dans Matthieu 1, 20, il y a un ange qui avertit Joseph que l'enfant que Marie porte, il est de Dieu. Dans Matthieu 2, 13, il a averti Joseph, « Prends l'enfant, va-t'en en Égypte pour sa sécurité, pour sa protection. » Il est dans le plan de Dieu. Dieu lui a pourvu une protection. Il a envoyé un ange pour lui dire, « Prends l'enfant et sa mère, puis va-t'en en Égypte, parce qu'il y en a qui veulent à sa vie. » Dans Matthieu 4, 11, ça nous dit que les anges, quand Jésus était dans le jeûne pendant 40 jours, suite à son baptême, ça dit que les anges étaient, ils servaient Jésus dans le désert pendant ces 40 jours-là. Ça, c'est dans Matthieu 4, 11. Que les anges étaient au sein, ils apparaissaient à Jésus puis ils servaient pendant son jeûne. C'est quelque chose, ça. Ça nous parle du service envers les saints. Dans Luc 22, 43, il y a un ange qui est apparu pour fortifier Jésus, pour lui dire de prendre courage parce qu'il savait, il s'en allait à mourir à la croix. Il avait besoin d'encouragement, mais Dieu a envoyé un ange pour fortifier Jésus. On voit que Jésus, ce n'était pas nécessairement un surhomme. Comme dans le film de Mel Gibson qu'on voit, il y a de l'air d'un surhomme là-dedans, il endure tout ce qu'il y a là, puis c'est comme si... Non, c'est un gars moralement, c'est un simple homme, puis il était capable, il n'est pas qu'il était capable, mais lui-ci était sujet au découragement, aux angoisses. Il était angoissé, là. Puis il suait du sang, il était en proie au tourment, là. Il combattait contre lui-même, contre son âme qui était écrasée et abattue. Il souffrait dans son âme, pas juste dans son corps. Il a besoin d'être encouragé par un ange que Dieu a envoyé. Dans Actes 1, 9, il y a deux anges qui sont apparus aux disciples pour rendre témoignage lors de l'ascension de Jésus. Dans Actes 5, 19, il y a un ange qui a ouvert la porte de la prison aux apôtres. Dans Actes 8, 26, il y a un ange du Seigneur qui parla à Philippe pour lui donner une direction dans l'évangélisation. Philippe est en train d'évangéliser, puis là, il y a un ange qui a dit « Va vers tel chemin ». De celui de Gaza, celui qui est désert. C'est un ange qui est apparu pour diriger. Dans Actes 10, 3, ça dit un ange qui est apparu en vision à Corneille pour l'amener vers Pierre, pour qu'il puisse entendre les paroles par lesquelles il pourrait être sauvé. L'ange, il n'est pas là pour prendre notre place. C'est pas l'ange qui a expliqué le plan du salut à Corneille. Puis ça dit dans ce passage-là, c'était extraordinaire. Corneille, c'est un homme pieux, qui craignait Dieu, puis qui faisait des aumônes, puis il était même pas sauvé. Il fallait qu'il entende les paroles par lesquelles il serait sauvé, puis il fallait qu'ils entendent de la bouche de Pierre. Fait que l'ange a guidé Corneille d'envoyer ses serviteurs pour aller faire venir Pierre pour entendre les paroles, puis là, une fois que les paroles ont été dites, le Saint-Esprit est descendu sur eux, puis ils ont été sauvés. Mais Dieu, on voit le plan de Dieu dans tout cela, là, que l'intervention des anges dans le ministère. Dans Actes 12, 7, ça nous dit qu'un ange qui a délivré Pierre de la prison. Dans Actes 12, 22, ça dit qu'un ange a frappé Hérode de la mort rongée par les vers, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il y a un jugement de Dieu qui est tombé sur Hérode, puis un ange qui l'a frappé, puis il est tombé de mort rongé par des vers. Dans Actes, parce qu'il ne faut pas oublier que les anges, autant qu'ils sont là pour nous accompagner, tout ça, c'est les hauts anges qui étaient donnés l'autorité sur cette terre. Ça, j'aurais pu en parler, mais là, c'est parce que j'ai trop d'affaires à dire sur ces sujets-là. Mais les anges, là, c'était eux autres qui étaient donnés l'autorité sur cette terre. Puis Jésus était abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Mais l'autorité d'exercer les jugements de Dieu, c'est à cause des anges qu'il faut avoir l'autorité, une marque de l'autorité dont on dépend, Parce que c'est les anges qui exercent le jugement de Dieu sur la terre, puis c'est les anges qui administrent. C'est pour ça que dans la rébellion, il y en a encore qui règnent sur cette terre en droit légal sur l'humanité entière, les démons, qui c'est le prince de ce monde. Tandis que les anges de Dieu, c'est eux autres qui avaient été placés en premier pour être ici. Mais là, vu que les humains ont changé de royaume en obéissant à Satan, Adam et Ève ont accepté la seigneurie du diable plutôt que de demeurer sur la selle de Dieu administrée par les anges. Mais Jésus lui-même a accepté de venir pendant un certain temps en dessous des anges, dans cette vie comme un simple homme, pendant un temps. Mais après ça, il a été couronné de gloire et d'honneur, puis il a reçu le nom qui est au-dessus de toutes les dominations, les autorités ou les puissances du monde invisible. Jésus a le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, n'importe quel ange, même les anges déchus, vont fléchir le genou devant la seigneurie de Jésus-Christ. C'est rien qu'une question de temps que cela s'accomplisse. On voit dans Actes 27, 23, un ange avertit Paul du naufrage puis de la protection des gens. Ça va donner aussi un réconfort dans leur détresse parce qu'il était en naufrage. Ça faisait, je me rappelle plus, 3 semaines qu'il n'a pas mangé, là.
14 jours
qu'il n'a pas mangé, 2 semaines qu'il n'a pas mangé. Puis là, il était comme tout démoralisé puis il n'a plus d'énergie physiquement. Il était dans comme s'il faisait tempête sans arrêt, tellement qu'il était en dérive, en naufrage, dans une tempête de 2 semaines. Puis là, il désespérait de conserver la vie. Puis Paul lui a dit, un ange qui appartient au Dieu que je sers, qui m'a apparu, puis il m'a dit, il se perdra pas un cheveu de votre tête. Puis là, il fallait qu'il fasse confiance aux paroles de Paul. Puis là, il dit, il n'est pas question, vous sortez en chaloupe. Parce qu'il y en a qui ont essayé de se sauver en chaloupe. Pour que ça s'accomplisse, il faut que vous restiez dans le bateau. Puis ça s'est accompli, ils ont eu la crainte, puis là, ils ont coupé les cordes du bateau, de la chaloupe, puis la laissé aller, pour que tout le monde reste là, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'ange. Ça avait le but de... Ça les avait encouragés, ça, cette parole-là, parce qu'ils se sont remis à manger. Ils étaient découragés, là. Mais l'ange, le message de l'ange les a encouragés, puis les a donné une vision de dire, il faut persévérer, puis on va s'en sortir. Puis là, c'est arrivé jusqu'au moment où ils ont échoué sur une île. Mais on voit que Dieu a mis son ange à côté de Paul pour l'aider à passer à travers de cette situation difficile. On va vous donner 2 exemples de guerre spirituelle, puis de travail des anges pour le peuple de Dieu. Dans Daniel 10, le verset 2 et 3, Daniel, là, il était en captivité à Babylone. Babylone, c'est un empire qui régnait sur toute la terre, puis il avait détruit Jérusalem, puis il avait emmené captifs tous les Juifs à Babylone. Puis là, Jérémie l'avait prophétisé que la déportation à Babylone va durer 70 ans. Puis là, Daniel était un des déportés qui vivait à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Puis là, Daniel eut à cœur de connaître, de comprendre ce qui avait été prophétisé par Jérémie, puis il lisait, puis il avait vu que c'était 70 ans. Il se met en prière. Tu vois qu'il combattait pour le peuple d'Israël et pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Il dit au verset 2, « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. » Fait que là, à partir du moment que c'est mis en prière, ça a duré 3 semaines de temps qu'il était dans le deuil. « Et je mangeai aucun mets délicat, puis n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis, onction, je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Fait qu'il s'est mis dans un jeûne pendant ces 3 semaines-là pour prier son Dieu. Ce que je vous disais tantôt, que quand les chrétiens se mettent à prier, à prendre les promesses de Dieu, puis intercéder face aux promesses de Dieu, prendre l'autorité dans le nom de Jésus, puis toutes les armes de Dieu qu'on utilise, les promesses, puis tout ça, il se passe de quoi dans le monde invisible quand on est en train de le faire? La preuve, dans le même texte, là je vous dis qu'il était 3 semaines à le faire, ça c'était au verset 2, on s'en va au verset 12, là, il y a un ange qui est envoyé de Dieu pour aller parler à Daniel. Trois semaines plus tard, il arrive à côté de Daniel. Il dit, ne crains point, Daniel, car dès le premier jour que tu as pris à cœur de comprendre puis de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Pas trois semaines après qu'il est exaucé. Il est exaucé la première journée, mais ça a pris trois semaines avant que l'ange puisse arriver à Daniel pour lui donner le message. Il dit, « Et je suis venu à cause de tes paroles. » Puis le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Combien de temps que ça fait, 21 jours? Ça fait trois semaines. Ça veut dire, la première journée, tu es exaucé, mais j'ai été en guerre par le roi de Perse pendant trois semaines de temps, pendant les 21 jours. Ça a pris 21 jours avant qu'il arrive à Daniel. Ça veut dire que ça faisait 21 jours que l'ange Gabriel est en combat pour pouvoir réussir à arriver à Daniel puis lui dire le message. La guerre spirituelle dans le monde invisible pendant que les chrétiens prient. C'est ça que je vous expliquais. Quand on prie et qu'on intercède selon les promesses de Dieu, il se passe de quoi dans le monde invisible? On comprend pas parce qu'on voit pas ce qui se passe, on comprend pas les délais. Pourquoi, Seigneur, c'est si long avant d'arriver à telle affaire? Mais c'est parce qu'il se pose une guerre dans le ciel, puis il y a des combats, puis avant que ça puisse se faire, il y a des délais à cause du ciel, pas à cause de la terre. Daniel, lui, là, il était là, puis il faisait juste prier. C'est pas à cause de lui qu'il y a eu un retard. C'est à cause de l'ange Gabriel qui était prisonnier. Sinon, il y aurait eu le message tout de suite, la première journée. Puis là, il dit, « Et voici, Michaël, un des premiers chefs, est venu à mon secours. » Et on voit que Gabriel est en guerre parce que le roi de Perse, ça c'est une principauté spirituelle, un ange démoniaque qui est en contrôle, qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui règne sur la Perse, a empêché l'ange Gabriel de rentrer en Perse pour aller parler à Daniel qui était dans le pays de la Perse. Fait qu'il y a une guerre qu'il y a eu dans le ciel. Qu'est-ce qui est arrivé pour défendre l'ange Gabriel? L'archange Michel et ses anges qui ont débarqué, puis qui ont été allés délivrer Gabriel pour qu'il puisse aller livrer son message. C'est le même Michael, chef des anges, qui a combattu, comme j'ai lu tantôt, quand il y a eu dans Jésus qui est mort sur la croix, puis que le prince de se rejetait dehors. Puis ça dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis il fut précipité, puis il ne fut plus trouver de place pour eux. Les démons et puis le diable n'étaient pas plus forts que Michael ou Michel et ses anges. C'est un ange puissant. Puis dans un autre verset, ça nous dit que Michael, c'est le chef des anges sur le peuple d'Israël. Ça c'est dit dans un autre verset, là, je ne l'ai pas sorti. Mais c'est pour vous parler de la guerre spirituelle, des combats qui se passent dans le ciel, que les anges aussi ont de l'opposition à l'accomplissement de la volonté de Dieu, puis qu'il y a d'autres anges qui sont obligés de s'aller se battre pour pouvoir réussir à dégager l'autre ange, puis qu'ils retentissent. Un autre passage pour nous parler de la présence de ces anges-là qui combattent, pour faire ça rapidement. 2 Rois 6, le verset 16. Élisée, qui était sur la montagne, c'est un prophète qui était aimé de Dieu, puis il y avait son serviteur qui était avec lui. Puis là, il y avait des gens d'une armée qui étaient là, puis qui voulaient venir capturer Élisée, puis lui faire du trouble, parce qu'Élisée prophétisait des choses que ce roi-là n'aimait pas, dans 2 Rois 6, 16. Puis là, Élisée, il n'avait pas peur de tous ces gens-là qui étaient là. Mais son serviteur, lui, il avait peur. Mais il avait besoin d'être rassuré de qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible. Qu'est-ce que tu vas voir là dans le monde invisible, là, ça va te rassurer, tu n'auras plus peur. Seigneur, rouvre-lui les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée, il dit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria ainsi, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux et qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du garçon, et il vit, et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Élysée. Ça, ça devait être extraordinaire à voir. Tous les anges de Dieu, l'armée, il y avait à dépêcher peut-être un bataillon. La montagne était pleine. La gang qui a de ceux qui venaient faire du trouble à Élysée, là, c'était rien. Et Dieu, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Est-ce qu'on a cette foi-là? Que Dieu nous accompagne? Puis que Dieu a mis tous ces anges-là autour de nous, qu'ils sont nos puissants alliés, que Dieu a mis là pour nous assurer là, qu'on marche, dans, puis nous accompagner dans notre service et dans notre ministère. Le Seigneur, il est prêt à intervenir dans la vie de chacun de nous. Nous les voyons pas. On voit pas Dieu, puis on voit pas ces anges-là. Puis on ne doit pas non plus, à cause qu'on ne les voit pas, s'énerver dans les situations qu'on passe à travers. Dieu, il est toujours au contrôle de ce qu'on passe au travers. Dieu, il est toujours là, nous accompagnant. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », il ne parlait pas juste de lui. Lui et aussi les anges de Dieu qui sont là tous les jours pour nous accompagner. Inquiétez-vous pas. Nous sommes là, prêts à intervenir dans chacun de vos besoins. Il faut apprendre à faire confiance, même si on ne les voit pas. Il ne peut rien nous arriver qui ne soit pas autorisé par Dieu. Mettons toute notre confiance en Dieu, car il prend soin de nous. Quand nous prenons autorité au nom de Jésus-Christ, quand un personnage se réfugie sous le sang de Jésus, les anges se mettent en place dans le monde invisible, tout autour de nous, puis combattent selon l'ordre de Dieu. Les anges de Dieu prennent le terrain acquis par les enfants de Dieu. Nous n'avons pas à nous soucier d'eux, mais plutôt de penser à ce que nous sommes et ce que nous devons faire. Parce que je termine avec ça. Des fois, on pense beaucoup, est-ce que Dieu va les envoyer, ces anges-là, pour me protéger? Est-ce que l'autre va faire ça? Est-ce que l'autre... Faut pas se soucier des autres affaires. Dieu a promis que les autres choses seront là, à leur place, en train de faire, parce que les anges de Dieu obéissent aux ordres de Dieu. Ce qu'il faut penser premièrement, c'est est-ce que moi... Là, chacun de vous doit dire, est-ce que moi... Je fais ce que j'ai à faire. Si oui, j'ai rien à m'inquiéter. Dieu en contrôle tout le reste. Ses alliés sont là pour m'accompagner, puis je vais passer à travers de n'importe quoi, puis il n'y a rien qui peut m'arriver que Dieu ne le permettra pas. S'il m'arrive un malheur, c'est parce que c'est Dieu qui aura permis pour m'enseigner quelque chose, mais Dieu est encore au contrôle de tout dans cette situation-là. Y a-t-il un amen à cela? On va prier. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne des choses extraordinaires de ce qui se passe dans le monde invisible, puis du secours que tu nous proposes, Seigneur, à travers ces anges puissants que tu as mis là autour de nous. Seigneur, on marche par la foi dans ce monde-là. On a besoin que tu nous encourages avec ces pensées-là tous les jours de notre vie, qu'on n'oublie pas ce que tu as fait, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, puis ce que tu feras dans la suite, puis qu'on avance par la foi en sachant que tu es avec nous et que tout ce que qui va nous arriver, ce n'est que les choses qui sont selon ta volonté. Fait qu'on remet nos ventres à tes mains, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.